RCF.
Xavier Lopiné, si on prend la règle de Saint-Benoît, par exemple, ou la grande prière juive du Shema Israël, ce qui intervient immédiatement, le premier mot fait référence à l'écoute, à l'ouïe. Écoute. Pourquoi est-ce que c'est si important ?
L'écoute, c'est le premier sens de la relation, hein, c'est de dire je te dis quelque chose. Donc il y a quelque chose à entendre. Donc oui, le premier commandement, c'est écoute Israël, tu aimeras. Donc formellement, c'est pas aimer. La première chose, c'est écoute. Et ensuite, tu verras ce que j'ai à te dire. Donc oui, quand un parent dit à son enfant écoute, c'est à la fois du regarde-moi. C'est je suis ton père, ta mère, j'ai quelque chose à te dire. Donc l'écoute symbolise la relation entre les personnes. Écoute en langue des signes, intéressant. On pose sa main devant les yeux et on écarquille les yeux. Donc un père sourd à son fils sourd va lui dire ouvre les yeux et regarde-moi.
Et la règle de Saint-Benoît commence par ces mots « Écoute, ô mon fils, les préceptes du maître et incline l'oreille de ton cœur ».
Pour vérifier qu'un novice est bien fait pour la vie bénédictine, il est dit aussi, on vérifiera qu'il cherche Dieu, hein, donc qu'il tend l'oreille. Ne pas écouter, c'est faire signe de suffisance, de n'avoir rien à apprendre. Hein, et c'est, je vois dans l'éducation, le métier d'éducateur n'est pas facile. Hein, c'est comment capter l'attention, comment finalement ce que l'on, quand il y a échec, c'est qu'il n'y a plus d'écoute, parce qu'il n'y a plus d'intérêt. À quoi bon ? Oui, l'écoute est absolument essentielle dans la vie humaine. C'est le lieu d'échange de savoir. Et personne n'a de savoir absolu.
Alors les mots ont un poids, les mots ont du sens. Est-ce qu'il peut y avoir des bavardages entre personnes sourdes ?
Ah ben oui, bien sûr. J'ai un témoignage d'un Américain qui va dans une synagogue juive pour observer comment se passe une liturgie en langue des signes. Lui-même est entendant. C'est un grand sociologue. Et il se rend compte que, comme chez les entendants, les gens papotent derrière le rabbin. Et en langue des signes, bien sûr. Donc oui, parce que la communication et le bavardage, c'est une forme amicale, privée, d'une communication. Mais bien sûr, il y a beaucoup de bavardage. Je ne l'ai peut-être pas assez dit, mais la langue des signes a été codifiée dans le milieu monastique, à Cluny. Et tous les visiteurs canoniques, depuis le Moyen-Âge, disent « c'est bien ce système, mais ça n'empêche pas les moines de bavarder ». Et là, j'ai même un lieu commun récurrent, à travers plusieurs récits, mais sur plusieurs siècles, hein, de visiteurs qui s'étonnent des moines qui racontent les histoires de guerre qui se passent à l'extérieur en langue des signes. Donc déjà au XIIIe siècle et encore au XXe siècle, les moines disent « ben oui, c'est fait pour sauvegarder le silence, mais ça ne nous empêche pas de bavarder ».
Alors pour ce qui est de la parole de Dieu, est-ce qu'on peut tout traduire en langue des signes de la Bible ?
Absolument. L'évangile de Luc a été entièrement traduit en langue des signes. Donc pour les auditeurs, ils peuvent taper dans un moteur de recherche « Bible LSF ». Donc LSF, c'est-à-dire « Langue des signes française ». Et là, ils trouveront le site bible.lsf.org. Et ils pourront choisir chapitre par chapitre, et je les invite à ça, en langue des signes. Moi, j'ai commencé par le Magnificat, ça m'a beaucoup... Donc, c'était la première fois que j'entendais l'évangile en le regardant. Et pour raconter cela, donc je vois le Magnificat se dérouler en langue des signes devant les yeux. Et à la fin, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Et Abraham, le signe Abraham, c'est une main qui vient bloquer l'autre, comme Abraham qui est bloqué au moment où il veut sacrifier son fils. Et donc là, j'ai compris ce signe que ça voulait dire Abraham. Et donc, ça, non seulement on peut tout traduire, mais chaque personne a un signe particulier. Oui, c'est ça qui est assez fascinant aussi. C'est
comment, chaque personnage des Écritures, vous voulez dire ?
Des Écritures, un signe particulier.
Marie, qu'est-ce que c'est ?
C'est le voile donc, et les mains jointes. Voilà, donc le voile qui descend du haut de la tête et qui se rejoint devant sa poitrine. Judas, c'est celui qui fait le baiser, donc de part et d'autre, hein, donc c'est son signe. Saint Jacques, c'est la coquille Saint Jacques qui est posée sur
la poitrine.
Sur la poitrine. Joseph, c'est le raboteur, hein, donc celui qui le charpentier. Adam, ben c'est la pomme d'Adam que l'on montre. Ève, c'est celle qui croque la pomme. Ben, chacun est caractérisé par le signe visuel que l'on peut assez vite repérer. Isaïe, c'est le charbon ardent posé sur les lèvres, etc., etc.
Xavier Lopinet, qu'est-ce que cette pastorale des sourds a changé dans votre vie de foi ?
C'est une question évidemment très intime, mais je dirais sur deux plans. C'est sur le mystère de l'humanité. Moi, ça m'a rendu plus humain, les sourds, vous voyez. Et de même que Dieu s'est fait homme, je crois que nous avons nous-mêmes à devenir hommes. Je ne sais pas comment dire. C'est à incarner notre incarnation, à habiter notre corps, à faire confiance aux relations humaines. Donc moi, ça m'a rendu plus humain, et c'est une démarche de foi, hein, qui est. Et deuxième aspect, c'est peut-être un peu mystique, mais c'est sur le rapport à la providence. La providence est un concept clé chez les sourds. Hein. Pour un sourd, rencontrer un autre sourd, c'est forcément que ça a du sens. Comme il y en a 1 sur 1000, vous voyez, ouais. Donc rencontre un autre sourd. Et je dois dire ce qui est, comme pasteur, la providence dans le monde des sourds, mais je la vois à puissance 10 par rapport à ce que j'avais vécu avant. C'est-à-dire des rencontres improbables, mais évidemment qui devaient avoir lieu. Et là, donc, moi, je vois la main de Dieu dans le monde des sourds de façon extrêmement forte avec ce concept de providence. Hein.
Est-ce que la notion de handicap, de souffrance est présente ? Parce que il faut quand même pas oublier que même s'il y a une capacité d'adaptation et les personnes qui souffrent d'un handicap savent compenser, malgré tout, ça reste difficile. Est-ce que par moment, vous trouvez que c'est révoltant, que c'est difficile, qu'il y a beaucoup de souffrance aussi ?
Bonne question. Alors, les sourds ont un rapport complexe, je trouve, à la question du handicap. Parce que quand on est né sourd, on n'a pas de regret de ce qu'on n'entend pas, puisqu'on n'a jamais entendu. Donc, ils sont très bien dans leur peau, ils se disent, mais on n'est pas malade, on n'est pas des handicapés. C'est la société qui nous handicape. Donc, vous voyez, toujours la question d'un handicap partagé. Ceux qui sont devenus sourds, parce qu'il y a des histoires de méningite, ou parfois il y a des maladies qu'on ne connaît pas. Hein, je connais des personnes devenues sourdes du jour au lendemain, des deux oreilles. Hein. Donc là, effectivement, il y a une souffrance, une frustration immense. Donc là, oui, il y a une souffrance. Ce que je trouve intéressant chez les sourds, c'est qu'il y a un rapport au handicap militant au bon sens du terme. Dans le monde des sourds, dans le monde du handicap, pardon, au sens technique et large du terme, les sourds sont de loin les plus militants et les plus précurseurs. Je donne un exemple. Hein. Ils ont créé les Jeux Olympiques sourds dès 1927, donc bien avant qu'on pense à des Jeux Olympiques, à des Paralympiques. Donc c'est pour ça qu'on ne les verra pas à Paris, parce qu'eux-mêmes ont leurs propres Jeux Olympiques mondiaux depuis presque un siècle. Donc ils assument très bien leur surdité, mais vivent douloureusement évidemment tout ce qui est du côté du mépris, de la non-accessibilité à plein de choses. Donc là, le combat social actuellement, c'est d'inscrire dans la Constitution française l'accès à la langue des signes tout azimut. Alors il y a déjà beaucoup de progrès, hein, mais il y en a encore beaucoup à faire.
Et peut-être pour finir, est-ce qu'il y a une prière des sourds ou pour les sourds ?
Une prière des sourds ou pour les sourds. Il pose des gestes. Je donne un exemple. Il y a un signe qui est international, qui se fait avec une main. Donc là, j'aurais du mal à le décrire. C'est le petit doigt levé, l'index et le pouce. Donc ça fait deux doigts repliés dans votre paume. Ça fait le signe I love you, parce que le petit doigt fait le I, on fait le L entre l'index et le L, et puis on a le Y également. Donc si vous faites ce signe-là, vous tapez I love you LSF, je pense que vous l'aurez, veut dire à quelqu'un, je t'aime, I love you. Et lors de funérailles, dont je parlais précédemment, j'ai vu une sourde s'avancer vers le cercueil et puis poser cette main de I love you posée sur le cercueil. Ça avait une allure incroyable. Hein, donc oui, il y a une présence très sensible, je trouve, du monde sourd et à Dieu et à la liturgie. Le Notre Père en langue des signes, là aussi, j'invite vos auditeurs à taper Notre Père. LSF, langue des signes française, ça se trouve sur le diocèse de Paris, hein. Et là vous verrez des vidéos, et le Notre Père en langue des signes, c'est
Une
bouleversant, hein.
catéchèse.
C'est ah, c'est une vraie catéchèse. Et donc là, lors de célébration, tout récemment à Lunéville, 40 enfants avaient fait l'effort, grâce à leur catéchiste, pour apprendre Notre Père en langue des signes. Ils sont mis devant l'autel. Donc voilà, nous avons prié Notre Père. J'invite les enfants à venir devant l'autel. Donc eux, ils étaient face aux sourds. Et quand les sourds ont vu les 40 enfants faire le Notre Père langue des signes, là, c'est eux qui étaient pour le coup bouleversés. D'habitude, c'est les sourds qui bouleversent les entendants. Mais alors là, c'était voir 40 enfants prendre leur langue pour prier. Ça nous a tous beaucoup touchés, quoi.
Un très grand merci, Xavier Lopiné, d'avoir été
Merci de
l'invité
votre invitation.
de cette série Halte
Merci de votre
spirituelle.
ouverture à ce monde des sourds.
Merci. Je renvoie donc nos auditeurs au livre que vous publiez aux éditions du Cerf qui s'intitule « Les sourds, en ce jour-là, entendront les paroles du livre ». Un très grand merci à vous. Merci à Pascal Gauthier qui était à la technique à Lyon. Et merci à Antoine Honora qui lui était du côté de Nancy dans les studios de RCF. Merci beaucoup.